Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Aujourd'hui, je cause avec Noël Boza, fondateur de la solution Zeille, qui accompagne plus de 2000 entreprises dans leur démarche RSE grâce à une plateforme en ligne et à des services dédiés. Parmi ses clients, on peut citer Insect, Marcel, Privatizer ou encore le Slip français. Noël est un expert et passionné de la RSE qui a fondé son entreprise après plusieurs années de recherche, de travail et d'apprentissage dans le but de comprendre comment accompagner au mieux le monde de l'entreprise dans sa transformation. Les services de Zeille sont très pratico-pratiques et son développement passe par un positionnement assez unique et une logique de partenariat. Dans cet épisode, au final, nous parlons beaucoup de la solution en elle-même, sans vouloir en faire de la publicité, mais simplement parce que c'est par le produit qu'on comprend le développement vertueux de Zeille et ses ambitions aussi. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Noël nous partage. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un avis et à mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts si ça vous a plu. Ça va beaucoup nous aider. Salut Noël, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Business Positif.
Salut, ben, très content d'être là.
Je suis ravie parce que je vous ai découvert, donc toi tu es fondateur de Zeille, tu vas nous raconter ce que c'est. Je vous ai découvert il y a quelques années au Salon Pro Durable et j'avais beaucoup aimé l'approche. Et en vous ayant suivi de loin là depuis quelques temps, je vois toute une évolution hyper, hyper chouette et j'entends beaucoup parler de vous, donc je me dis tant mieux déjà. Et donc du coup, je te propose pour commencer de me raconter ce qu'est Zeille avec tes mots à toi.
Ce qu'est Zeille. Donc, on est une start-up du digital au service de l'impact. On va dire ça plutôt comme ça. Donc, concrètement, une plateforme qui, d'un côté, permet d'accompagner l'ensemble des entreprises dans leur démarche RSE et impact. On va pouvoir entrer en détail, mais l'idée, c'est qu'on permet de résoudre un peu tous les freins qu'il y a à l'action et on permet surtout de le communiquer, de le valoriser pour qu'il y ait un véritable retour, en quelque sorte, des boîtes engagées. Et de l'autre, on permet du coup aux consommateurs, aux acheteurs, aux talents, aux investisseurs, donc tout à l'aspect demande des particuliers, d'enfin pouvoir comprendre et comparer ce que font les entreprises pour mieux diriger leurs achats, travailler dans une entreprise qui a du sens et faire en sorte qu'une entreprise qui s'engage gagne des parts de marché, gagne de la compétitivité et gagne en quelque sorte des talents et motive ses équipes pour devenir plus compétitive. Et donc, au final, jouer sur les mécanismes même du marché pour faire en sorte d'accélérer la RSE et l'impact dans l'entreprise et faire en sorte que dans 10 ans, celles qui ne s'engageront pas perdront leur part de marché, perdront leur talent au profit des celles qui s'engagent.
Non, mais très clair. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment l'idée est venue ? Donc, j'ai l'impression que ça a été vendu n'importe quoi, que ça a été créé en 2015. Est-ce que tu peux me dire un petit peu d'où t'es venue l'idée ? Est-ce que t'es seul fondateur ? Est-ce que t'es cofondateur ? Comment vous avez lancé ça ? Parce que c'est un produit, Zeille. C'est pas du. On pourrait penser que c'est un cabinet de consultants, mais pas du tout. Vous vendez vraiment un produit aux entreprises.
Ouais. Alors on fait pas du conseil humain. Par contre, on a réussi à. Alors je vais pas dire automatiser le conseil, mais à remplacer justement le besoin de passer du temps. Et de mettre de l'humain pour accompagner les entreprises sur la RSE, pour pouvoir le démocratiser avec une grande partie qui est 100% gratuite, adaptée à tout le monde, du boulanger du coin jusqu'à la grande banque internationale. Alors concrètement, d'où est-il venu ? Alors moi, je suis passionné depuis longtemps par les sciences en général, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du coup en passant par la biologie, l'écologie, la planétologie, l'histoire de la vie sur Terre. Et quand on creuse un petit peu tout ça, on se rend compte très vite à quel point ça va être la merde à cause de l'homme. Alors principalement sur le climat, mais c'est aussi sur la biodive, sur les ressources. Qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pas pour sauver les ours polaires et les pandas, mais c'est pour sauver notre civilisation qui est plutôt assez confortable pour nous jusqu'à présent. Et donc à quel point il fallait vite qu'on agisse si on voulait un peu sauver ce qui peut l'être. Quand on voit, par exemple, qu'il y a 250 millions d'années, avec la crise du Permien, un réchauffement climatique qui était beaucoup plus lent qu'aujourd'hui a entraîné un effet boule de neige qui a détruit 87% de la vie marine, 85% de la vie terrestre, et que là, on va 100 à 1000 fois plus vite aujourd'hui avec l'activité humaine, on se dit qu'il y a quand même un gros souci et qu'il faut qu'on y aille. Donc, quand j'étais encore en école de commerce à Kedge, j'ai commencé à me dire, bon, bah, il faut que je fasse ma part, je vais travailler dans une entreprise qui a du sens, qui essaye d'agir. Et en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que la grande majorité des entreprises qui étaient à impact, on va dire ça comme ça, qui proposaient des solutions, existaient. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'entreprises qui proposaient à chaque fois le même produit, plusieurs véhicules électriques, différentes marques, des panneaux solaires des différentes entreprises. Mais ce qui manquait, ce n'était pas forcément les solutions, c'était plutôt ce qui est en face, la demande. C'est bien de lancer un nouveau produit super durable, mais si en face, il n'y a personne qui me l'achète et j'arrive pas à trouver les talents, bah, ça n'a pas marché.
C'est clair.
Et donc, pour mon premier stage, quand j'ai compris un petit peu ce problème, je me suis dit, il faut qu'on arrive à jouer sur autre chose que l'offre. Il faut qu'on joue aussi sur la demande, parce que l'offre et la demande sont interconnectées en quelque sorte dans le système économique. Et j'ai
Ouais.
essayé de comprendre d'où vient le manque d'action d'un côté de la part des particuliers, des consommateurs, des talents. Et en parallèle, pourquoi est-ce que les entreprises, de leur côté, n'agissaient pas pour celles qui n'étaient pas impact first, celles qui étaient les entreprises de CAC 40, des ETI, qui étaient toujours conscients de ces enjeux, mais qui ne se transformaient pas assez vite. En creusant un petit peu, et en tout cas, j'ai essayé dès le début d'apporter une démarche un peu scientifique, en quelque sorte, à la startup, en essayant d'itérer, de
Ouais.
faire une hypothèse, de la tester, de voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux, on avance et on développe d'autres trucs. Et si ça marche pas, on change, on pivote et on continue d'itérer petit à petit.
Et donc, c'était quoi les hypothèses du début?
Alors, l'hypothèse du début, mais j'étais seul, j'étais encore étudiant et j'ai bossé pendant 3 ans pour essayer de vraiment définir les premières hypothèses avec un business model. Sauf que j'étais tout seul,
Ouais.
j'avais aucun dev, aucune compétence dev ou design, pas d'associé et j'avais que 5000 euros en poche, donc de quoi payer un développeur sur un mois, donc bon, je savais pas aller loin.
Ça
puis
n'est
j'ai
pas
gagné
les loin, c'est clair.
un concours qui m'a permis de gagner bon, le prix RSE de ce petit concours, qui m'a permis d'avoir une petite dotation de 3000 euros financières qui vont s'ajouter aux 5000 euros de mon épargne. Et surtout un accompagnement de 6 mois de la part de Marseille Innovation, qui est un incubateur sympa, accélérateur sympa de Marseille. Et je me suis dit, bon, je vais le tenter. Je sortais à peine de mes études, aucune expérience pro à part mon alternance et aucune expérience entrepreneuriale. Et j'ai vite eu la chance d'avoir quelques premiers associés qui m'ont rejoint. Donc, notre DA, Laure Bratz, qui a rejoint l'aventure. Puis, les premiers développeurs en stage. Puis, petit à petit, des stagiaires qui se transformaient en associés. Et on a créé entre 2015 et 2016 une petite team
OK.
assez complète. Donc, certains ont investi un petit peu d'argent au tout début pour compléter les faibles capitaux sociaux qu'il y avait. Et c'était, on se rémunérait pas trop, ou alors c'était en stage. Et on essayait de trouver comment on pouvait financer le premier CDI. Donc, ça a démarré très très lentement avec une
Vous
première.
étiez combien d'associés?
Alors, à l'époque, on était fin 2016, on était 6 au total.
OK.
Aujourd'hui, on est beaucoup beaucoup plus. On va y venir. Et en tout cas, à
Okay.
l'époque, ma première hypothèse, qui était d'ailleurs complètement fausse, on va pouvoir creuser cette question après, c'est de se dire, si les gens n'agissent pas, c'est parce qu'on n'est pas codé pour. Les humains, on est programmés pour réagir à un intérêt qui est immédiat, qui est personnel, en gros la dopamine, la récompense, la reconnaissance sociale. Donc c'est les jeux vidéo, c'est les réseaux sociaux, c'est les machines à sous. Tout ça marche très bien et on fait des trucs qui n'ont aucun sens, comme jouer au poker, et pourtant on va le faire à fond et on va être accro à ça. On va être sur Instagram à guetter les likes en se disant, ben, tiens, je vais publier encore une photo. Ça n'a pas de sens, mais on le fait parce qu'on est programmé pour, parce que c'est l'évolution et que sans ça, l'humain n'existerait plus. Et aujourd'hui, en fait, on est face à un problème qui est les problèmes environnementaux, qui est de long terme, qui est impersonnel, sur lequel on se dit, ben, si j'existais pas, ça serait pareil. Et les seuls outils biologiques qu'on a pour résoudre les problèmes, c'est quand c'est immédiat, c'est le stress, quand le danger, je le vois venir et que je dois courir. ou de l'intérêt
Oui.
qui est immédiat, qui est personnel, donc la dopamine, la récompense, la gamification et tout ça. Donc des outils qui n'étaient pas du tout adaptés. Et je me suis dit, et si on jouait sur la récompense, la gamification et la reconnaissance sociale, donc tout ce qui était récompense immédiate en quelque sorte, pour
Ouais.
récompenser, valoriser une action environnementale, pour essayer de rendre l'écologie émotionnelle, en quelque sorte.
Tout un programme sur le papier à développer, quoi.
Voilà, c'était. Alors, ça paraissait sur papier, ça me paraissait pas mal. Sauf qu'en fait, dans les faits, on a voulu créer un réseau social où chaque action, que c'était des dons, que c'était de la participation à les collectes des déchets, des achats chez des partenaires via API, enfin, il y avait un truc. C'était un truc ultra complexe. On avait des connecteurs sur plein de sites marchands, on avait des applications pour les événements, on avait une machine de guerre pour essayer de récompenser chaque action dont on était tracé. Derrière, ça te donnait de la gamification, des badges, des points pour l'aspect un peu réseau social, gamification. Et on avait des partenariats avec des boîtes qui proposaient des cadeaux en face que j'allais
OK.
contre mes actions, contre mes points en quelque sorte, pour jouer sur les trois niveaux, reconnaissance sociale, récompense immédiate et gamification en quelque sorte. Alors, je ne sais pas, et on ne saura jamais si la théorie était bonne ou pas, mais en tout cas, on s'est rendu compte que c'était pas faisable, dans le sens où il fallait une armée de développeurs pour la maintenance du système, il fallait une armée de commerciaux pour trouver des nouvelles récompenses.
Ouais.
C'était absolument pas scalable. Et avec quelques milliers de users, en fait, on n'arrivait pas à passer à une vitesse supérieure. Et surtout, le modèle.
C'est ça, c'est qu'il fallait une frappe de force, enfin une force de frappe, pardon, énorme pour aller parler aussi à toutes ces personnes, parce que là c'était du B2C, donc c'est énorme comme boulot pour aller mobiliser les gens, les faire utiliser.
Alors, on avait depuis le début l'idée de faire aussi une brique entreprise, donc une plateforme dédiée qui financerait le système. Sauf qu'en fait, c'était tellement d'itérations, de développements sur ce volet grand public qu'on ne pouvait jamais vraiment se poser sur la partie entreprise. Donc déjà, ce n'était pas faisable et surtout, ça, on ne pouvait pas faire de cash, donc c'était compliqué. Parce qu'on ne pouvait pas se mettre enfin à allouer des ressources sur la partie entreprise. Et surtout, on s'est rendu compte qu'entre 2015 et 2017, alors je ne sais pas si j'avais pas aperçu ça en 2015 ou si c'est quelque chose qui a évolué depuis, mais petit à petit, on a pris conscience que les gens n'avaient pas forcément besoin d'avoir une incitation émotionnelle à faire de l'écologie. Ils étaient déjà suffisamment, en quelque sorte, conscients aujourd'hui des problèmes et de l'urgence pour commencer à transformer leurs achats, travailler pour des boîtes qui ont du sens. Et aujourd'hui, les chiffres le montrent assez bien, c'est 80% des Français qui ont déjà transformé leur consommation pour prendre en compte l'impact environnemental. C'est les chiffres de BPI en 2018. C'est 2 millénials sur 3 qui refusent de travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Donc la volonté est là. Donc c'était autre chose qui bloquait. Et en creusant un petit peu plus, je me suis rendu compte que ce qui manquait, c'est tout simplement que la demande, on va appeler ça la demande quand je mets en même temps les consommateurs, les acheteurs, les talents, n'ont pas aujourd'hui d'outils pour comprendre et pour comparer les entreprises. Et donc, ils n'ont pas en quelque sorte l'information nécessaire pour faire les meilleurs choix et encourager l'entreprise qui s'engage, encourager leurs solutions et pour du coup entraîner ce cercle vertueux entre l'offre et la demande qui pourrait tout changer. Et quand on a pris conscience de ça, on s'est dit, OK, il va falloir qu'on se reconcentre.
Bien sûr. Et cette prise de conscience, elle a eu lieu quand au final?
Alors, c'était entre 2017 et 2018. On a commencé à y réfléchir et à retravailler ça en fin 2017. Et on a fait une première levée de fonds un peu grande échelle de plus de 700 000 euros tout début 2018 pour justement financer cette transition, notamment le
Ok.
début de la plateforme pour entreprises. Parce qu'avant de pouvoir se mettre sur des rankings et des profils d'entreprise, il fallait avoir la donnée. Et pour avoir la
Bien
donnée, il
sûr.
fallait que les entreprises viennent les mettre. Parce que la donnée RSE n'existe pas en ligne dans le cloud, comme ça peut l'être par exemple pour Yuka, qui utilise des bases de données européennes. C'est de la RSE, c'est pas normalisé, il n'y a pas de. Et donc la question c'était comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre d'un côté les freins à l'action des entreprises pour qu'elles s'y mettent, pour qu'on change le monde. Comment est-ce qu'on peut faire en plus pour créer là-dessus un modèle financier et un modèle de pricing qui fonctionne? Et en plus de ça, les inciter à venir mettre des données, parce que clairement, ça peut les faire chier si jamais ils ne les ont pas déjà, ou alors qu'ils n'ont pas de
Ouais.
software, pour qu'ensuite on les mette à disposition des consos. Et donc là-dessus, on a recommencé à travailler. Et alors la conclusion sur laquelle j'ai atterri, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont quasiment toutes conscientes qu'elles vont devoir se mettre à faire de la RSE et de l'impact, parce que les consommateurs, les salariés sont en train de changer, les investisseurs aussi de plus en plus sont à la recherche d'informations. Le problème, déjà, c'est qu'elles ne savent pas quoi faire. Mes
Elles
enjeux
ne savent pas
RSE,
par où commencer.
alors c'est plus que par où commencer, c'est quoi mes enjeux? Quand je suis dans le textile, mes enjeux RSE et impact n'ont absolument rien à voir avec les cosmétiques ou la banque, avec les fonds d'investissement, l'assurance ou un vendeur de perches à selfie. C'est à chaque fois des enjeux, des critères et des pondérations aussi, des priorisations qui n'ont rien à voir. Et ça, aujourd'hui, il faut faire appel à un cabinet de conseil en général hein, qui va coûter assez cher. Donc c'est de l'ordre de 1000 euros par jour pendant des semaines, voire des mois pour les grosses ETI. Plutôt à destination des grandes boîtes. Et donc il y a 95% des entreprises qui, malgré une bonne volonté, ne peuvent même pas se lancer là-dedans parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Et donc du coup, elles vont commencer par les gobelets en plastique, mais elles vont jamais remettre en question leur modèle et se transformer.
C'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, sur la plateforme. Alors, du coup, je vois, en fait, on fait une belle introduction au final d'un cas d'école, d'un lancement d'entreprise, de start-up aujourd'hui dans ce milieu de l'impact. Donc, c'est hyper intéressant. C'est pour ça aussi que je te laisse vachement développer, parce que je trouve ça hyper chouette. J'espère que ça aidera bien les auditeurs qui nous écoutent. Mais pour rebondir ce que tu dis là, sur ce que tu dis là, je trouve en effet que sur la plateforme, ce qui est pertinent pour moi, l'avoir utilisé pour moi, donc pour l'agence Cause comme pour des clients, c'est qu'il y a effectivement vraiment des critères que vous avez pré-mâché le travail en fait en fonction du secteur d'activité, que ce soit un e-commerce, que ce soit là une agence de conseil, que ce soit en fait les critères sur lesquels on va pouvoir évoluer, ils sont vraiment dédiés à notre secteur. Et je me demandais comment vous avez fait, c'est quoi concrètement le travail que vous avez mis en place pour réussir à définir les secteurs en priorité, à définir les grandes lignes pour ces secteurs. Est-ce que vous avez travaillé main dans la main avec certaines entreprises? Est-ce que vous avez fait des études? Comment vous avez travaillé pour obtenir ça? Même si j'imagine que c'est encore en évolution, hein, mais.
C'est en évolution constante. En effet, alors pour ce premier frein du je sais pas quoi faire, mais on va le voir, il y en a trois. On a en effet développé et inventé, j'appelle ça une approche matricielle, mais on va dire un algorithme et qui est capable de recouper chaque entreprise en fonction, et c'est pas que le secteur, c'est en fonction de 200 secteurs d'activité, 300 caractéristiques et 10 tailles d'entreprise. Et on va la recouper avec plus de, alors dans la matrice, c'est 600 critères RSE et impact, mais au total sur Zeil, on a plus de 1200. Donc il faut imaginer un Excel avec 400 000 cases, hein, en gros. Et à chaque fois, on recoupe l'entreprise avec les indicateurs pertinents, en faisant en sorte qu'il n'y ait aucun critère important qui soit oublié, mais aucun critère non pertinent qui soit demandé. Et sur chacun de ces critères, il y a un coefficient qui permet de prioriser les enjeux aussi, les uns par rapport aux autres, pour savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est plutôt marginal.
Et du coup, ça me donne envie de te demander comment, en fait, je suis très dans le comment aussi des fois et dans le, tu vois, concrètement, en fait, comment vous avez monté ça? Vous étiez combien quand vous avez lancé ce truc-là? Parce que là, tu dis que, tu vois, c'est quand même assez récent, ce pivot et cette prise de conscience que vous avez eue. Donc, au final, pour avoir aujourd'hui déjà, là, on est en 2021, une plateforme avec autant de critères déjà, avec cet énorme tableau Excel, comme tu dis, ou équivalent, comment vous avez fait pour déjà mettre ça en place? Il y a combien de personnes derrière, en fait?
Alors en gros, j'avais commencé moi à travailler sur cette matrice. Donc l'architecture de la matrice, une fois qu'elle a été définie, on la complète au fur et à mesure. Donc on le fait en général secteur par secteur, en étudiant pour chaque secteur bah, quels sont les critères qui existent déjà qu'on va recouper. Donc dès que j'ai des bureaux, on va nous demander d'avoir de l'énergie bas carbone et des sites de collecte de déchets. Dès que j'ai un prestataire de livraison en ligne, bah, on va me demander la part des prestataires de livraison qui sont bas carbone ou non motorisé. Dès que j'ai des produits avec des packagings, on aura des critères sur les emballages. Donc en fait, il y a plein d'indicateurs qui se regroupent entre les secteurs et en fonction des caractéristiques et de la taille. Et ensuite, dans chaque secteur d'activité, on va regarder concrètement quand je suis un VTC, c'est quoi les critères qui sont clés pour le VTC? Bah, la part des transports qui sont bas carbone, par exemple. On va regarder des études scientifiques sur le sujet pour étudier les meilleures alternatives. Donc je fais les textiles. Qu'est-ce que c'est qu'un textile durable? Bah, il y a le lin, le chanvre, les matières recyclées, des textiles à la location ou de seconde main, mais le coton bio n'est pas un textile durable. C'est un textile bio, mais pas durable. Donc
Ouais.
on fait cette étude-là sur la littérature scientifique existante pour essayer de la consolider en quelque sorte dans des indicateurs très précis, très spécifiques, qui me permettent très simplement en tant qu'entreprise de comprendre quel est l'enjeu et quelles sont les solutions pour y répondre. Et du coup, comment je vais pouvoir calculer actuellement ma progression? Part de ma gamme qui correspond à la définition durable. Part de mes
Ouais.
salariés qui ont tel dispositif. Part de mes adresses avec des bornes de recyclage. Part de mes véhicules qui sont bas carbone. Et ainsi de suite. Donc c'est toujours du
Ok,
quantitatif.
et ça, dupliquer, c'est ça. Et ça, dupliquer sur les différents secteurs d'activité. Et aujourd'hui, concrètement, c'est quoi la vision que vous avez de Zay? C'est quoi le lieu où vous voulez amener cette entreprise? Donc, je dis vous parce que du coup, vous êtes plusieurs associés. Et est-ce que tu peux nous dire combien vous êtes dans l'équipe aujourd'hui?
Alors aujourd'hui on est 15, à peu près la moitié de l'équipe est associée, donc je leur ai donné des parts
Ok.
au début pour avant les premières levées de fonds pour ceux qui étaient clés et qui voulaient s'investir dans la durée, donc petit à petit. Et donc au total on est 15 entre Paris et Marseille aujourd'hui. Alors
Ok.
la vision et comment est-ce qu'on va accompagner, c'est vraiment la première étape, c'est d'aider l'entreprise à déjà identifier ses enjeux et mesurer là où elle en est sur chacun de ses critères. Je peux mettre aussi des objectifs sur chacun des critères pour expliquer là où je veux aller, avec quelle date
Ouais.
butoir. Et une fois que c'était vérifié par nos équipes sur l'attestation, je sais exactement qu'est-ce qui est important pour moi, là où j'en suis sur chacun des enjeux et des critères. Et en gros, qu'est-ce qu'il me reste à faire à partir de maintenant. Mais c'est vraiment la première étape, c'est le point de départ. Au-delà de ça, il y a deux autres freins des entreprises sur lesquels on essaie
Oui.
d'accompagner. C'est qu'une
Ouais,
fois que je
ouais.
connais mes enjeux, je ne sais pas comment progresser, quelles sont les innovations, les startups, les cabinets de conseil qui vont pouvoir m'aider. Et une fois que j'ai mis concrètement du temps et du cash dans ma démarche RSE et impact, ben je ne sais pas trop comment le communiquer. Il y a des labels RSE qui marchent assez bien, comme B Corp et Lucie, mais ces labels sont destinés plutôt aux entreprises qui sont impact first, ceux qui sont déjà impact par défaut, mais c'est une minorité d'entreprises. Et donc, notamment, le label B Corp est très sélectif. Et donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui veulent progresser et qui ont commencé leur démarche ne savent pas comment communiquer leur progression et leurs ambitions RSE.
Ouais. Et puis il y a un gros travail pour l'obtenir en fait. Donc
Oui.
c'est vrai que le gap, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Il y a un gap énorme généralement de travail pour l'avoir, quoi.
Disons que c'est très, très adapté aux entreprises qui sont en Impact First et leur outil gratuit d'ailleurs, le BI, me permet assez simplement de voir où j'en suis sur l'ensemble de mon RSE, même si c'est
Ouais.
pas vérifié. Et que c'est un référentiel qui est un petit peu standardisé pour tous les secteurs.
C'est une auto-évaluation.
Ouais, voilà, c'est plus un moyen de voir où j'en suis et quels sont les gros enjeux de la RSE. Il y a les rapports RSE, alors j'aime pas dire personne ne les lit, mais pas grand monde les lit. C'est pas un outil de comparaison de benchmark, mais moi qui suis super engagé, j'ai pas comparé la BNP, Société Générale, en me tapant la 300 pages et deux rapports. Donc en gros aujourd'hui une entreprise qui s'engage ne sait pas forcément comment le communiquer, le valoriser auprès des talents, auprès des consommateurs, des acheteurs, en tout cas des parties prenantes. Et donc elle n'a pas ce retour sur investissement et cet encouragement de la part des acheteurs, consommateurs ou de ses salariés ou des talents, même des investisseurs. Et donc sans ce retour sur investissement, bah, malheureusement la RSE est un peu limitée dans les ressources qu'on peut y allouer. Donc
Bien
Azeï,
sûr.
en plus d'accompagner à définir les enjeux, à mesurer où j'en suis, et surtout nos profils, où on a justement ma progression et les objectifs sur chacun des critères, et mon score en quelque sorte de progression, je peux le communiquer à tout moment pour le partager à mes différentes parties prenantes pour qu'ils puissent comprendre, quel que soit mon niveau de maturité, là où j'en suis, mes enjeux, comment je suis par
Ouais.
rapport à mes concurrents, mais aussi les critères où je ne suis pas encore très bon, vu que je ne choisis pas les indicateurs que Azeï va m'imposer sur l'environnement. Des versions gratuites, mais on a aussi bien sûr des scores et des critères sociaux et gouvernance que l'on peut communiquer. Et pour aller encore au-delà de ça et surtout faire rayonner ces scores le plus largement possible, on met à destination des entreprises des QR codes et des posters qui vont pouvoir intégrer dans les bureaux, dans les magasins, dans les agences pour que n'importe quel salarié ou client en un seul scan de QR code puisse voir où j'en suis et comment je progresse au cours de l'année. Ça peut s'intégrer sur un produit, sur un packaging aussi pour mes clients. On s'intègre sur les sites web à côté de Facebook, Twitter, Instagram, dans les réseaux sociaux, pour qu'en un seul
Ok.
bah, j'arrive et je comprenne sur Zay bah, la stratégie de la boîte. Et on est en pleine campagne d'intégration de nos scores via API sur des sites de recrutement, des job boards et des marketplaces digitales pour que les scores d'impact
Génial.
passent à côté d'un produit référencé ou d'une offre d'emploi. Et toujours accélérer comme ça l'accès à l'information. Et dernier
Bien sûr.
détail pour ce qui concerne Zay, du côté grand public, on a aussi des classements qui me permettent très facilement d'aller comparer et comprendre ce que font les boîtes de chaque secteur. Et on devrait rajouter, je fais un peu de spoiling, un moteur de recherche dans pas trop longtemps dans les classements qui me permettra de chercher une boîte, imaginons, je sais pas moi, Mossa en total. Et si jamais je ne trouve pas cette boîte dans le classement, on va mettre, désolé, cette boîte n'est pas encore transparente. En attendant, voici les rankings.
Les autres boîtes du secteur. Génial. Et donc ça, c'est avec toujours cette optique B2C, parce que si on en revient à la vision, donc là, clairement, le business model, il tourne autour du B2B, parce que c'est là où vous avez trouvé les freins dont tu parlais, mais vous avez toujours cette optique de donner de l'information au grand public.
Exactement, les deux vont ensemble. Il faut qu'on accompagne l'offre et qu'on accompagne aussi la demande. Et si on arrive à jouer sur cette boucle, ce cercle vertueux entre l'offre et la demande, à impact,
Bien sûr.
naturellement, les boîtes engagées vont gagner les parts de marché, les talents, et ça forcera celles qui ne s'engagent pas à se lancer. Pour moi, les deux
Oui,
piliers sont dans le même
fonctionne comme tu
écosystème.
disais. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment, donc là, on a une belle présentation de l'entreprise et de tout ce que vous faites. Et effectivement, c'est aussi, mine de rien, une machine là, qui tourne et qui est lancée et qui évolue. Donc, ça demande d'entrer dans ce détail-là. Est-ce que tu peux me dire, si on fait un pas de recul, comment vous avez fait pour trouver vos premiers clients?
Alors, bah, il y a 3 ans, première boîte, on a bien ramé, parce que
Ouais.
coucou, on a un visiteur par mois. tu veux venir sur mon site, ça, voilà, c'est difficile, mais je trouve qu'on a la chance d'être dans un domaine, l'impact et la RSE, où on s'entraîne un petit peu tous. Les premières boîtes qui étaient sur Zay, ce sont des boîtes à impact, à qui on a vendu une vision et un projet sur lesquels ils ont adhéré, et même si ils y croyaient pas tous forcément à 100%, ils étaient dans une démarche de construction, donc ils ont
Ouais.
joué le jeu. Et en fait, très vite, on est passé d'un modèle où on devait aller chercher des boîtes qu'elles se lancent et qu'elles publient leur profil, à aujourd'hui un modèle où on ne va plus chercher des entreprises. Alors, on vient de lever 2 millions d'euros fin
Ouais.
2020, donc on va pouvoir accélérer le process, bah, l'acquisition. Mais disons qu'on devait continuer d'améliorer quelques interfaces avant de lancer l'acquisition payante. Mais en tout cas,
OK.
aujourd'hui, on a des dizaines d'entreprises par semaine qui s'inscrivent d'elles-mêmes. Alors, c'est beaucoup de bouche à oreille et un petit peu aussi, justement, le côté B2C, donc les classements et les profils des boîtes, qui attirent des visiteurs. Quand même, on ne dépense pas en pub jusqu'à présent. Et
Ouais.
pourtant, en termes du SEO, tu tapes plateforme RSE, tu trouves pas Zay pour l'instant dans les 10 premières pages. C'est
Vous n'avez pas encore fait là-dessus, ok.
que du direct, de l'organique, du référal. Donc,
Vous avez très bien maillé, et puis c'est vrai que, comme tu disais, vous adressez, enfin, c'est un peu ma question, c'est que là, quand même, dans ces clients-là, moi, j'ai l'impression, en tout cas, la vision extérieure que j'en ai, c'est que ce sont des boîtes à impact qui sont dedans et qui vont donc montrer ce qu'elles font déjà et puis vous utiliser pour s'améliorer. Est-ce que je me trompe? Dans votre cible, tu parlais des 95% de 90 ou 95% de PME au final qui n'auront juste pas les moyens a priori de prendre des cabinets à 1 000 euros par jour. Mais cela dit, toutes ces entreprises n'ont pas encore fait le pas. Donc c'est ce sur quoi vous comptez puisque c'est ce qu'on a dit juste avant sur cette vision de demain ce sera normal d'avoir fait sa démarche à RSE, ça ne le sera pas de ne pas l'avoir commencé. Mais cela dit, aujourd'hui, c'est plutôt des clients qui sont déjà dans l'impact, qui sont déjà sensibilisés à tout ça, qui viennent sur Zaï.
Premières entreprises, c'était des boîtes à impact parce qu'on voulait un peu des
Ouais.
champions qui allaient montrer l'exemple dans les classements. Mais aujourd'hui, on a vraiment de tout. On a
OK.
beaucoup d'entreprises. En fait, quel que soit le niveau de départ, et c'est ça, c'est là un peu notre positionnement, c'est de dire, on s'en fiche de là où t'en es, on va pas te juger. Ce qui compte, c'est que tu sois transparent, que tu sois honnête, qu'on essaye pas de faire du greenwashing. Donc,
Ouais.
explique, quand t'es à zéro, c'est pas grave, montre-le. Par contre, ce que tu vas montrer surtout, c'est tes objectifs et comment tu vas y arriver. Et quand tu rentres dans cette démarche-là, en fait, même si t'es pas bon, ben, tes parties prenantes vont t'encourager. Parce qu'au final, la communication honnête, la communication transparente, c'est assez rare en termes d'environnement et de social, de RSE.
Bien
Il y a
sûr.
beaucoup de greenwashing, beaucoup de tentatives. Les boîtes choisissent en général ce qu'elles veulent montrer, mais masquent ce qu'elles ne veulent pas montrer. En leur montrant qu'en fait, qu'avec de la transparence et de l'honnêteté, elles ont tout à gagner, elles sont très nombreuses à faire le pas et de dire bah, « je vais quand même aller dévoiler ce que je fais ». Et donc, on s'adresse à un petit peu tout le monde. Mais le but, c'est de faire entrer toutes ces boîtes dans une démarche de progrès continu, sans forcément les juger ou les punir s'ils ne sont pas assez bons.
Donc là, il y avait clairement les cibles à impact. Comment vous avez travaillé ? Donc, ça rejoint aussi la question de peut-être est-ce qu'il y a une stratégie en particulier qui a fonctionné pour vous ou des actions spécifiques de com que vous avez mises en place, donc sans publicité payante. Comment vous avez fait pour mettre en place une stratégie pour aller justement acquérir ces... on va dire ces seconds clients. Donc, il y a les premiers que vous êtes allés chercher directement à la main. Et comment vous avez fait pour les suivants ?
Donc, le premier levier, c'est qu'on a, je pense, très vite créé une... Alors, à la base, ce n'était pas voulu, mais on va dire que c'était une stratégie. d'avoir une image un peu fun, un peu sympa, mais en restant avec du contenu qualitatif pour parler d'écologie. Parce que dans l'écologie et l'impact, tu vas avoir soit des assos qui vont avoir une communication un petit peu old school et peu de moyens, peu quali avec des photos iPhone, soit des contenus un peu trop produits mais pas très fun, parce que l'écologie quand c'est trop négatif, voilà, c'est pas, ça parle pas trop. Et donc très vite on a, notamment sur LinkedIn, Twitter, on a commencé à se positionner avec un contenu qui est fun, qui est quali, mais qui parle de Zay, et ça pas mal plu, et en tout cas on a commencé à créer comme ça une communauté d'acteurs qui nous suivaient, qui nous aidaient, et aujourd'hui cette communauté nous permet d'avoir des reach de plusieurs dizaines de milliers de personnes toutes les semaines, sans dépenser un seul centime sur les réseaux sociaux, et comme on a une image, je pense, on a l'air un peu sympa,
Oui, complètement.
Un peu fun. Ça donne envie aux gens de s'investir dans le projet, de nous aider, d'avancer avec nous, de nous suivre. Et ça a été clé pour le deuxième pilier, c'est qu'aujourd'hui, une très grande partie de notre communication et en tout cas de la visibilité de Zay, ce sont les entreprises qui publient leur profil elles-mêmes, qui font rayonner leurs engagements.
Mais d'ailleurs, ça, je rebondis là-dessus aussi, parce que ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est pas juste les entreprises d'elles-mêmes qui le font, c'est aussi que vous avez quand même des personnes qui vont, donc là, pour le coup, je peux aussi en parler en tant qu'utilisatrice, qui vont relancer, qui vont appeler, qui vont rappeler comment faire pour partager, qui vont demander où on en est. Donc, ça fait partie aussi de votre organisation, d'avoir des personnes qui sont dédiées à ces relances-là.
Il faut surtout le temps de voir comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce soit fluide. Il y a plein d'interfaces qu'on est en train de retravailler pour que ça se... que ce soit le plus compréhensible possible. On a rajouté là, il n'y a pas longtemps, alors je ne sais pas si tu es retourné depuis, une page communiquée sur Zay, où tu trouves tous les outils, les visuels, les bonnes pratiques que tu peux mettre en place pour communiquer ton profil. Donc en fait, on essaye de rendre les gens complètement autonomes, parce que plus on pourra automatiser des process, tout en gardant bien sûr un contact humain avec les membres quand il le faut, plus on pourra accompagner l'entreprise, et donc plus on pourra avoir d'impact au niveau... au niveau un peu macro, quoi.
Parce que tu disais que vous aviez une approche unique même dans le monde sur ce sujet-là, et du coup, vous avez cette volonté aussi dans la vision d'aller à l'international.
Alors, on a un positionnement qui est assez unique. Alors déjà, par la matrice qu'on a mis en place.
Ouais.
Donc, il y a d'un côté des plateformes de scoring RSE qui ont un référentiel un peu unique et vont principalement se concentrer sur la partie communication. Mais en général, ces plateformes-là... font payer la partie communication parce que c'est leur modèle en quelque sorte, et donc ils n'arrivent pas à avoir une masse critique d'entreprises pour devenir une plateforme de référence. Ils ont 10, 20, 50 entreprises. Alors c'est pas le cas des labels comme Lucy, Bicorp ou Label RSE Engagé.
Oui, bien sûr.
En fait, c'est leur métier et les labels c'est très bien fait pour, mais les plateformes de communication, si jamais tu fais payer le dévoilement de ton profil, bah, tu as intérêt à déjà avoir des milliers d'entreprises publiées pour que les entreprises aient envie de le faire, sinon ils vont pas le faire. Donc nous, de ce côté-là, on a décidé de le faire gratuit, ce qui nous permet d'avoir cette traction qui est assez positive. Nous, on a ce positionnement mixte où on te dit c'est une plateforme de pilotage RSE, mais c'est aussi un référentiel qui a été adapté pour toi, que tu vas pouvoir communiquer, et donc on est capable de rendre gratuit la communication tout en se rémunérant sur l'aspect de pilotage. Et donc on a un modèle qui est mixte, qui est basé sur une technologie qui est aujourd'hui unique au monde, cette matrice, Et avec cette stratégie d'avoir beaucoup d'entreprises qui communiquent, d'être un peu fun, d'essayer d'avoir une UX qui est assez sympa.
Oui, c'est ça, c'est que vous mettez quand même beaucoup d'énergie là-dedans, dans l'UX aussi. Alors, je vois le temps qui défile, je vais continuer avec mes petites questions quand même, parce que ce qui m'intéresse, vous, en tant que Zay, qui accompagnez les boîtes à aller vers l'impact, comment vous mesurez votre propre impact? C'est quoi vos critères?
Alors, c'est...
Déjà, est-ce que Zay est sur Zay?
Zay est sur Zay. On n'est pas premier du classement du digital. On est 10e sur 251 dans le digital. Enfin, dans les applications, plateformes et logiciels. Donc, on est à 57% de progression. Sur le social, on est vraiment pas mal du tout. On est 3 à la direction, donc 2 femmes. On a parité homme-femme, salaire et nombre qui est parfaite. Même au niveau du board et du comité, on a la parité homme-femme. Mais encore une fois, on est qu'à 57 sur l'environnement, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Le but, c'est qu'on soit premier, mais il y en a qui sont vraiment très très forts et ils mettent la raclée pour l'instant.
C'est génial parce que ça peut être aussi motivant pour l'équipe d'utiliser son propre outil, non? Comment ça se passe? Il y a des personnes qui sont dédiées dans l'équipe?
Il y a Claire, notre CEO, qui est aussi directrice générale, qui est en charge de la RSE, et on a Sortna qui nous a rejoint en stage pour l'aider à améliorer ça.
Ok, génial. J'ai une petite question que j'aime bien poser sur les échecs, les apprentissages que tu as pu avoir de ces potentiels échecs depuis le lancement de Zay.
En fait, comme on a une approche où on itère sur des process très courts, c'est on a des sprints de 1 à 2 semaines max. On teste un truc, et si ça marche pas, on essaie de résoudre. Donc les échecs, en fait, il y en a tout le temps, toutes les semaines. Il y a un truc qui marche pas. le premier modèle, le grand public, qui marchait pas. Le premier modèle, le pricing aussi, qui fonctionnait pas. En fait, l'histoire de Zay, mais c'est l'histoire de toutes les startups, c'est juste un enchaînement d'échecs et d'un peu de succès. Et si t'as suffisamment de succès pour compenser les échecs et que l'équipe reste motivée, t'arrives à t'en sortir. Les plus gros échecs, ça a été sur la partie grand public. La première hypothèse où j'étais complètement à côté de la plaque. Et le premier modèle aussi financier où je pensais pouvoir nous rémunérer en faisant de l'apport d'affaires sur les entreprises qui proposent des solutions. Mais en fait, c'était beaucoup trop variable, c'était dur à traquer. Donc, on a dû basculer ensuite sur un modèle plus d'abonnement en quelque sorte.
Oui. Et quand tu étais dans ces pérégrinations, quand tu étais dans ces questionnements, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu envie de tout laisser tomber ou tu arrivais toujours à voir le bout du tunnel en te disant « non, non, je vais trouver ».
Alors, moi, je suis full in, hein. Je mets tout sur la table pour Zay. j'ai fait déjà, à la sortie de mes études, j'avais mis toute mon épargne, même si les chances étaient de 1% que ça marche à l'époque, parce qu'il n'y a pas le choix. Soit je m'achète un bunker en Norvège en faisant des stocks de vin et de bouffe. parce que je vois pas trop comment est-ce qu'on arrivera à s'en sortir, parce que je vois pas d'autre, en fait, je vois pas beaucoup d'autres alternatives si jamais on n'est pas des milliers d'entrepreneurs à faire des solutions, à aller essayer de pousser, à se battre, même s'il y en a les 3/4 qui vont faire faillite et qui vont pas marcher, c'est pas grave, il faut qu'on essaye, il faut qu'on teste des trucs. Même si on est 20 à se lancer sur le même modèle, au final, s'il y en a un seul qui réussit, c'est ça qui compte, quoi. La différence entre les boîtes qui réussissent et les boîtes qui échouent, c'est celles qui réussissent, en fait, elles continuent à tout donner jusqu'au dernier moment, quoi. Même si t'es au rouge, en fait, t'es jamais à l'abri d'avoir du cul. Une startup.
non, mais d'avoir un rebond, quoi. Oui,
c'est un rebond, mais c'est souvent. Des fois, c'est juste du cul. Vraiment, de la chance. Je sais que ça va pas plaire à tous les coachs inspirationnels, machin, qui te disent il faut travailler dur, le succès, c'est l'effort. Non, une startup, 90% c'est de la chance. c'est trouver les bonnes personnes, trouver sur les bons ambassadeurs, trouver les bons investisseurs. Tout ça, c'est pas que du, c'est de la chance. Si j'étais pas tombé sur Claire, notre CEO, sur Tim, notre CTO. Alors je les connaissais pas avant le projet, alors qu'ils ont commencé tous les deux en stage au début.
Mais c'est là où c'est un mix, parce qu'en fait c'est ça, t'es tombé dessus par hasard, c'est la chance, mais après t'as saisi l'opportunité, c'est peut-être ça la différence aussi. C'est-à-dire que tu aurais pu la rencontrer, te poser des questions, te dire bon, ok, mais et puis prendre 1 000 ans et puis elle n'aurait pas poursuivi, quoi.
Oui, mais pour moi, c'est tout part de l'opportunité qui arrive. Tu peux pas saisir
Ouais.
l'opportunité si t'en as pas. Donc pour moi, c'est
Ouais.
majoritairement de la chance et j'en ai eu beaucoup.
Bon, et puis tu as l'air de quand même bien vivre aussi les périodes où c'est un peu plus où c'est un peu plus tendu parce que encore une fois tu y crois quoi. Il y a vraiment ce truc-là que j'entends de dans tous les cas tu y crois parce qu'il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre alternative. Donc c'est comme ça ou c'est comme ça.
Voilà. Après, j'avoue que je suis pas niveau stress. J'ai plein de cheveux blancs à 29 ans, hein, donc pas non plus facile quoi. Mais quand il n'y a pas le choix, il faut y aller. Hein.
Ouais, non mais j'entends et c'est hyper hyper inspirant je pense aussi pour les auditeurs. Est-ce que tu peux me parler des défis à venir pour Zay?
Alors, on a quand même 5 ans derrière nous. On a lancé le nouveau modèle commercial B2B il n'y a pas longtemps et pour l'instant, on n'est pas encore rentable. Même si le chiffre
Ouais.
d'affaires progresse beaucoup plus vite que nos dépenses, on va y arriver. Mais en tout cas, un des gros défis, ce sera d'atteindre le point d'équilibre. Le deuxième défi que je vois plutôt à moyen terme, c'est qu'il faudra qu'on arrive de passer d'une startup française qui a eu la chance de bien se développer, d'être connue au niveau national, sur un positionnement plus international. Et ça, c'est un gros défi parce que notre impact sera marginal si on n'accompagne que les entreprises françaises, mais il peut être titanesque si jamais on scale au niveau mondial. Ça sera un des gros, gros, gros défis de Zay d'ici 2025 de commencer une expansion internationale. Amérique du Nord, ça me paraît pas mal, même s'il y a eu Trump, il y a une bonne partie du pays qui, Canada et Amérique, qui est sensible à ça, il y a beaucoup de progrès à faire. Europe, marché très sensible, les entreprises et les consommateurs sont aussi assez engagés. Après, il y a l'Asie, peut-être en troisième aussi, qui sera intéressant d'attaquer. Mais c'est développement international, c'est à chaque fois c'est qui te double, donc pareil, ça sera un gros,
Ouais.
gros défi. Et il y a un
Oui,
dernier.
c'est consolider en France et lancer ça.
Voilà, il y a un dernier défi, mais ça c'est plus une vision perso et je ne suis pas certain qu'on le fera ou qu'on y arrivera. Et c'est pas indispensable au succès de Zay, c'est que je pense que l'approche qu'on a d'accompagner l'entreprise et de le faire savoir aux consommateurs et autres, il y a le même besoin du côté des pouvoirs publics pour accompagner les élus à comprendre et à mesurer là où ils en sont au niveau d'une ville, à montrer qu'est-ce qu'ils font pour que ça progresse au courant de leur mandat, et aider
Ouais,
les électeurs à
c'est
comprendre
vrai.
et à comparer les programmes électoraux pour mieux élire ceux qui vont vraiment agir. Et donc j'aimerais rajouter à Zay à terme une brique pouvoir public qui viendrait
OK.
jouer sur le dernier pilier en quelque sorte de la société qui est les particuliers, les entreprises et les gouvernements, pouvoir public et autres, avec des profils pour la France dans un classement européen, des profils pour
Ouais.
les villes.
Mais aussi des collectivités, oui, c'est ça, des villes, des collectivités et des actions concrètes qu'elles mettent en place, quoi.
Imagine un match
Ouais.
du PSG OM où ils se disent ah Marseille est devant Paris on est plus green que vous enfin, il peut avoir un vrai aspect tribal en fait à ça et ça peut être
Et que tout ça se passe sur Zeil? Non, mais oui, donc, carrément. Et que tu fais l'arbitre.
c'est ça.
Je vois la vision. Non, mais c'est vrai que c'est hyper pertinent parce qu'effectivement, ils ont souvent des difficultés à en parler, justement, des actions qui sont mises en
Et
place.
les électeurs ne savent pas du tout ce qu'ils font.
Bah oui. Ok, bah génial. Il me reste les petites dernières questions du podcast que je vais te poser. La première, c'est est-ce que tu as un conseil à livrer aux auditeurs qui nous écoutent? Sur donc toujours cette question de l'impact positif et du business. Comment on allie les deux pour avoir une entreprise pérenne qui se développe tout en étant intrinsèquement positif au maximum?
Alors, pour intégrer au mieux l'impact et la RSE dans son business, déjà, il faut penser comment est-ce que je peux faire pour que mon cœur de métier, mon produit ou mon service, soit un impact positif. Si jamais je vends des produits, peut-être que juste en proposant ces mêmes produits à la location, on peut avoir un business model qui est tout aussi sympa, d'ailleurs.
Ouais.
Mais la location, en général, quand c'est de l'high-tech, hein, par exemple, c'est 13 fois moins impactant que l'achat neuf. Chiffre de l'ADEME 2019. Donc en fait, à chaque fois, il y a des nouveaux modèles à tester. Il va falloir le faire parce que les premières qui vont se lancer dessus seront les premières à y gagner et les dernières seront celles qui auront disparu dans 10 ans. Donc il faut vraiment réfléchir à comment je peux transformer mon modèle et il y a des réponses pour tous les secteurs. Même si on est encore au début, c'est pas grave. Même si on parle beaucoup d'impact et de RSE, on est encore très très loin de la norme en quelque sorte. Donc quel que soit le niveau de maturité actuel, on peut se lancer.
Est-ce que tu as une musique ou un film qui illustre ta vision à toi de cette question de l'impact et du business?
Ah, mais j'ai réfléchi jusqu'à maintenant pour essayer de trouver un truc super intelligent pour avoir l'air cultivé. Le seul truc qui me vient en tête, c'est un film qui est pourtant un gros blockbuster américain, c'est Mars. Que ça n'a
Ouais.
pas du tout de lien avec l'environnement ou le social.
Bon, ça n'a pas besoin.
Par contre, c'est une ode à la démarche scientifique dans le sens où lancer un projet à impact positif, on est en train tous d'inventer notre métier. On est sur une nouvelle planète où on sait pas du tout ce qui se passe. On essaie de créer son modèle. Et donc le meilleur moyen, c'est d'itérer. C'est vraiment une démarche scientifique. Je teste un truc, je fais une hypothèse, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, je change. Et on avance comme ça petit à petit. On va toujours tomber sur de nouveaux problèmes. Aujourd'hui, on a des problèmes qu'on n'avait pas du tout à l'époque et qu'on n'aurait jamais pu imaginer au lancement de Zeille. Et donc en gros, c'est le cas d'entrepreneuriat en général, mais c'est d'autant plus vrai dans l'entrepreneuriat impact. Notre quotidien, c'est
Ouais.
de tomber sur des problèmes et d'essayer de les résoudre. À chaque fois, sur des nouveaux problèmes. Et je trouve que Mars, bah, c'est un film qui représente bien ça et qui est en plus assez sympa et pas trop con.
Ah, sympa à regarder. Ok, génial, merci beaucoup pour cette référence en effet et ce parallèle qui est fait. Dernière petite question, est-ce que tu aurais un acteur à me recommander pour ce podcast pour être intéressant d'interviewer?
Alors, quelqu'un qui est vraiment top, alors Jean-Gabriel Levon, qui est un des cofondateurs de Insect, qui est un
OK.
fanatique de l'impact, notamment de l'impact climatique, qui est juste génial, et il passe ses journées à réfléchir à comment rendre son business plus green. C'est un des,
Génial.
il est à 78% sur Zeille en termes environnementaux, Insect, ils sont vraiment top, social et gouvernance, très bon aussi. Et le mec, en fait, c'est un fanatique de l'impact, super intelligent. Il essaie à chaque fois de réinventer comment je vais faire pour pouvoir limiter ce gramme de CO2 par-ci par-là, comment je vais faire pour optimiser l'espace, réduire l'empreinte la nourriture
Ok.
des bêtes. Et c'est un truc qui marche super bien, Insect. Je sais pas si, alors, pas très connu de la part du grand public, mais ils font des insectes à destination de l'élevage pour remplacer.
Oui.
La viande, hein. L'impact, enfin l'insecte étant beaucoup moins polluant en termes de CO2, d'eau et d'espace occupé que les viandes. Ils ont un succès qui est assez dingue. Ils viennent de lever 372 millions d'euros avec Asanor, qui est le fond de Iron Man aux États-Unis, enfin, l'acteur qui joue Iron Man.
Ok.
Pourtant, il reste super sympa. Ce mec, il est vraiment top. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup, beaucoup, sur toutes ces questions de business positif.
Ok, génial. Bah écoute, un grand merci pour cette recommandation et ce portrait élogieux de cette personne. Ça donne envie de le rencontrer, effectivement. Donc je vais regarder ça. Et puis merci beaucoup pour cet échange et pour toutes ces explications sur Zeille et sur ce que c'est, ce que ça fait, comment ça fonctionne et puis comment vous avez pu vous développer et comment vous continuez de vous développer. Et cette notion centrale, j'ai l'impression, de l'itération et de savoir émettre des hypothèses et savoir aussi quand ça marche, quand ça marche pas, continuer toujours d'essayer. Je repars avec ça notamment et puis plein d'autres choses de mon côté. Puis j'imagine que les auditeurs pourront aussi repartir avec leurs propres leçons. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous les partager. C'est toujours chouette à recevoir, que ce soit en DM sur LinkedIn ou même sur vos réseaux. D'ailleurs, on peut te parler directement sur LinkedIn, t'es accessible? Ça ne te dérange pas
Ouais,
d'être
carrément,
contacté?
avec plaisir.
Ok, donc voilà, on mettra le lien dans le post et puis dans l'article dédié. Eh ben, écoute, je te souhaite une très très belle fin de journée, parce que là, on est en fin de journée quand on enregistre. Et je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite.